vraiment cela m'a fait grand plaisir d'être de retour en Suisse, un pays que j'apprécie tellement. Et merci beaucoup pour l'accueil tellement chaleureux. Pendant la prochaine heure, plus ou moins, je vais certainement parler de la pandémie. Mais avant, il me faut vous donner un peu de contexte. Donc, s'il vous plaît, patientez, on va certainement arriver à ce sujet important, il n'y a pas de doute. Même en dépit d'une pandémie, la vie est toujours belle. Si nous pensons à une amitié joyeuse qui dure toute la vie, ou une merveilleuse journée en famille, avec plusieurs générations autour de la même table, ou des paysages splendides, ou un tableau qui capte le moment fugace quand la lumière est en train de jouer avec la superficie de lac Saint-Aignan, ou un poème qui, dans quelques mots seulement, communique une profonde inspiration. Mais la vie humaine n'est pas toujours quelque chose d'agréable. Je pense que nous connaissons tous la vie humaine et ses défis, ses frustrations, ses déceptions, ses conflits grands et petits, ses peurs et ses maladies, y compris ses maladies contagieuses. La science chrétienne propose des nouvelles idées sur la nature de Dieu, des nouvelles idées sur la nature de qui nous sommes, en tant qu'enfant de Dieu. Ces nouvelles idées peuvent nous élever au-dessus des limitations, au-dessus des discordes de la vie humaine, jusqu'à ce que nous voyons qui nous sommes éternellement en tant que manifestation divine et comment nous sommes. Toujours heureux, toujours en paix et toujours en bonne santé. Mary Baker Eddy, la découvreuse de la science chrétienne, connaissait la vie humaine très bien. Elle a grandi dans les années 1820 et 1830, dans la région des États-Unis qui s'appelle la Nouvelle-Angleterre, où se trouve la ville de Boston, par exemple. Spécifiquement, elle était la benjamine dans une famille de 6 enfants dans l'État de New Hampshire. Quand elle était petite, elle aimait Dieu beaucoup et elle adorait sa famille. Puisqu'elle était souvent malade, quand elle était petite, elle ne pouvait pas fréquenter l'école avec régularité. Mais elle s'intéressait beaucoup à apprendre. Elle s'intéressait beaucoup au monde qui l'entourait. Et elle était très encouragée dans ses études par son frère Albert, qui était un lettré. Elle était très encouragée, surtout par sa mère, à mettre en pratique les enseignements de Jésus. À l'âge de 22 ans, Mary Baker s'est mariée avec George Glover, un entrepreneur. Et ensemble, ils ont déménagé à toute une autre partie des États-Unis, en Caroline du Nord. Là, après 6 mois, et en dépit de leur prière sincère, il est décédé soudainement de la fièvre jaune. Oui, d'une maladie contagieuse. La laissant seule et enceinte. Elle est retournée au New Hampshire, où elle habitait initialement chez ses parents et plus tard avec une de ses sœurs. Quand son enfant est né, il est très énergique. Et puisqu'elle est souvent malade, c'est difficile, c'était un défi pour elle de s'occuper de lui. Un petit peu plus tard, le reste de la famille, inquiet au sujet de la santé de la mère et contre sa volonté, enlève son enfant et le place dans une autre famille. Bien sûr, c'était difficile pour elle à accepter. Et je crois que c'était une des raisons pour laquelle elle voulait se marier encore, pour former une famille, pour recevoir son enfant. Elle s'est mariée avec Daniel Patterson, un dentiste itinérant. Mais le mariage n'était pas heureux. Lui, il n'a jamais gagné assez d'argent pour qu'il puisse jouir de beaucoup de stabilité. Et plus tard, envers la fin du mariage, il ne lui était plus fidèle. Quoiqu'elle ait travaillé plus de 20 ans pour sauver son mariage, finalement, elle a terminé par divorcer. Et la famille avec laquelle son enfant était en train de vivre a déménagé à ce qui a été considéré à l'époque l'Ouest lointain, à l'état de Minnesota. Et là, l'enfant est informé que sa mère était décédée. Elle n'a rien entendu de lui pendant plus de 5 ans. Elle ne l'a pas vu pendant presque 25 ans. Nous avons tous des défis. Comment Mary Baker faisait-elle face au sien? En essayant même plus à mettre en pratique les enseignements de Jésus, en se dirigeant même plus vers sa Bible, elle savait que la Bible est pleine de la promesse que Dieu est toujours présent pour nous aider dans des moments de difficultés. Mais comment démontrer cela de manière pratique au beau milieu de la pauvreté, de la maladie et de la solitude? Pendant cette période, elle a examiné, elle a recherché plusieurs méthodes pour améliorer sa santé. La médecine conventionnelle, l'homéopathie, un système de guérison qui était très populaire à l'époque, guérison avec de l'eau, et ce que nous appellerions aujourd'hui l'hypnose. Pendant une certaine période, elle a utilisé des services d'un guérisseur mental bien connu, Phineas Quimby, et elle semblait aller mieux. Mais c'était temporaire. Et finalement, elle était très déçue, parce que la base de son système de guérison n'était pas le principe spirituel et moral qui constituait la base des enseignements et la base des guérisons de Jésus. En 1866, elle a éprouvé une percée. Elle était en train de marcher à une réunion de tempérance. C'était une sorte de réunion qui était assez commune à l'époque, organisée pour décourager la consommation de l'alcool dans la société en général. C'était en hiver, dans une petite ville qui s'appelle Lynn, pas très loin de Boston. Et elle a glissé sur le trottoir verglacé. Et à cause de la chute, elle est devenue inconsciente. Elle a été transportée à une maison qui n'était pas très loin de là. Et le médecin qui l'a examinée a diagnostiqué de graves lésions internes. Il ne pensait pas qu'elle allait survivre. Mais elle s'est réveillée et elle a demandé une Bible. Alors, dans un moment de grande inspiration, quand elle était en train de lire une des guérisons effectuées par Jésus, toutes ces décennies de recherche pour des réponses spirituelles, toutes ces décennies de recherche pour une meilleure santé, ont abouti à une guérison. Elle est soudainement bien, à la grande surprise de ses amis. Et quoi qu'elle ait éprouvé de petites chutes dans les prochains mois, finalement, elle a été totalement guérie des effets de chute, mais aussi, après cette expérience, elle jouissait toujours d'une meilleure santé qu'avant cette expérience. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Plus tard, elle vient dire que pendant ce moment de grande inspiration, elle a vu que, au-delà de tout ce qui est matériel, au-delà de tout ce qui est biologique et organique, était la réalité de Dieu en tant que la vie, et qu'elle était unie à cette vie. Et dans cette unité avec la vie, elle avait tout ce dont elle avait besoin, y compris sa santé. Tout au long de l'histoire, beaucoup de personnes ont été guéries et puis ils ont tout simplement continué à poursuivre leur vie. Mais elle voulait comprendre exactement ce qui s'était passé. Pourquoi a-t-elle été guérie? Et pourquoi alors? Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas plus tard? Et est-ce que les bons résultats pourraient être répétés dans les autres cas, avec les autres personnes? Très naturellement pour elle, elle est retournée à sa ville et elle a commencé à prendre des notes très détaillées sur ce qu'elle lisait. Elle trouvait qu'avec cette compréhension de Dieu en tant que la vie, avec cette compréhension de l'identité comme la manifestation de la vie, elle pouvait guérir d'autres personnes. Et un petit peu plus tard, elle pouvait enseigner aux autres comment guérir avec cette compréhension. Le fait que non seulement elle, mais les autres personnes aussi, pouvaient guérir avec cette compréhension, confirmait pour elle que la capacité de guérir, ce n'était pas un don spécial de Dieu pour elle, mais qu'elle avait découvert la science de la guérison, qui était la base des œuvres de guérison de Jésus. Ces guérisons étaient des guérisons physiques très importantes, de la malaria, de la tuberculose, de la diphtérie. Mais aussi, il y avait un élément moral dans ces guérisons. Souvent, la personne se sentait élevée spirituellement. Souvent, la personne devenait une meilleure personne, moins égoïste, par exemple. En 1875, elle a publié pour la première fois ce qui allait être son livre principal. Donc, elle a pu organiser toutes ses notes, elle les a réalisées, et voici le livre qui a été publié pour la première fois en 1875. Dans son livre, elle explique comment prier pour être protégée contre une contagion. Comment être protégé, y compris si, quand vous êtes en train de faire votre devoir, votre travail, vous êtes exposé à cette contagion. Comment connaître la protection. Aussi, elle explique comment être guéri si vous avez une maladie contagieuse. Mais, avant de parler plus spécifiquement de cela, je voulais vous lire deux passages qui sont peut-être même plus fondamentaux. D'abord, celui-ci. La compréhension semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite, Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée, et la démonstration. Elle ne voulait pas dire que les humains sont parfaits. Non. Elle voulait dire que, au-dessus de tout ce qui est humain, il y a la perfection de Dieu. Et chacun de nous, dans notre véritable condition comme enfant de Dieu, manifeste la perfection de Dieu. un autre passage. Chers lecteurs, vous pouvez prouver pour vous-même la science de la guérison et ainsi vous assurer si l'auteur vous a donné l'interprétation exacte de l'écriture. Quelqu'un qui a fait cela précisément était Asa Gilbert Eddy. Et en 1877, ils se sont mariés. Et alors, Mary Baker a pris son nom de famille. Mary Baker est devenue Mary Baker Eddy. Je voulais vous raconter deux expériences personnelles de guérison. Une expérience dans le contexte de la pandémie, un petit peu plus tard. Mais avant, il y a 15 ans à peu près, j'ai commencé à éprouver une douleur très intense au niveau de l'abdomen. En réalité, c'était des épisodes douloureux qui duraient 2-3 heures. Bien sûr, j'ai commencé à prier avec ces idées, la perfection de Dieu en tant que la vie, ma propre perfection en tant que l'expression de la vie, et que ni la crainte ni la douleur ne faisaient aucune partie de qui je suis comme enfant de Dieu. Pendant cette période, j'étais en train de travailler pour l'Église, la science chrétienne, et un petit peu plus tard, je vais parler plus de l'Église, la science chrétienne. Et pour mon travail, je devais parler en public 6 fois par semaine. Heureusement, ces épisodes douloureux ne m'empêchaient pas de faire ce travail. Je les ai éprouvés d'autres jours ou d'autres heures. J'étais tellement content de cela. Aussi, pendant cette période, je recevais de visites des membres de ma famille. Et les membres de ma famille auraient été très, très inquiets. Je savais que j'éprouvais ces douleurs, mais ils n'ont jamais appris. Si j'étais avec eux et je commençais à éprouver ces douleurs, j'ai dû me retirer, j'ai dû expliquer que j'avais du travail à faire, ce qui n'était pas surprenant parce que j'avais presque toujours beaucoup de travail à faire. J'étais tellement content parce qu'ils n'étaient pas inquiets à mon sujet. Aussi, pendant cette période, et je peux vous dire aussi que ces douleurs me faisaient penser à une expérience de membre de la famille d'une décennie avant, quand la personne était hospitalisée et diagnostiquée avec des calculs biliaires. Aussi, pendant cette période, j'ai reçu d'abord l'aide d'un praticien de la science chrétienne et plus tard d'un autre praticien de la science chrétienne. Et un praticien de la science chrétienne, comme a été expliqué, est une personne qui donne tout son temps à aider aux autres par biais de la prière. Ces praticiens priaient pour moi. Nous avons conversé ensemble au sujet de plusieurs passages de la Bible et des œuvres de Mary Baker Eddy. Ils m'ont beaucoup aidé. Ces douleurs ont arrêté après à peu près 2-3 semaines. Ils ont arrêté jusqu'à ce qu'ils soient revenus à peu près 5 mois plus tard. Mais cette fois, j'étais vraiment prêt à en faire face avec autorité, avec la conviction de ma liberté, puisque je suis enfant de Dieu. Et j'ai pu vraiment chasser ces craintes et chasser ces sensations. Cette guérison s'est effectuée il y a à peu près 15 années. Je suis tellement reconnaissant de cela. Une telle expérience a comme base un sens plus élevé de l'identité. La base de mes prières était que je suis spirituel en tant qu'enfant de Dieu. Une telle expérience a comme base un concept plus élevé de qui est Dieu. Alors, qui est Dieu? La science chrétienne enseigne qu'il ou qu'elle, au lieu d'être une chose parmi plusieurs choses dans l'univers, au lieu d'être une entité parmi plusieurs entités dans l'univers, qu'en réalité, Dieu est tout. Mais comment c'est possible que Dieu soit tout si nous habitons un monde composé de choses? Mary Baker Eddy a trouvé dans les Écritures un sens de Dieu comme amour infini, sans opposé, la seule vie, la seule intelligence, le seul entendement, la seule substance de l'univers, et que cela constituait la base des enseignements et des guérisons de Jésus. Bien sûr, on peut lire dans le premier épître de Jean que Dieu est amour. Également, on peut lire dans l'Évangile selon saint Luc, ce qui est appelé parfois la perle des paraboles, la perle de l'enfant prodigue, du fils prodigue. Dans cette parabole racontée par Jésus, un père qui a le cœur plein d'amour, plein de compassion, accepte de retour son enfant cadet qui l'avait traité d'une manière très irrespectueuse et qui avait dilapidé son héritage. Quand l'enfant se rend compte qu'il ne lui reste rien, y compris ni rien à manger, il décide de retourner chez son père. Il est sincère, mais il ne pense pas que son père va l'accepter en tant que fils. Il espère peut-être que son père va l'accepter en tant que serviteur. Mais au moins de cette façon, il aura de quoi manger. Mais quand le père le voit, il le voit de loin, il court pour le rencontrer, il l'embrasse. Et il dit qu'il veut célébrer, parce qu'il dit que mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Avec cette parabole, Jésus communiquait le sens de Dieu comme amour infini, sans opposé, pour chacun de nous. Ce que Mary Baker Eddy voyait était vraiment révolutionnaire et remettait en question les idées les plus fondamentales de la pensée humaine. Elle ne voyait pas qu'il y a des difficultés, il y a des discordes, il y a des maladies, y compris des maladies contagieuses. Et aussi, il y a l'amour infini qui est Dieu. Non, elle ne voyait pas ça. Elle voyait que l'amour est tellement infini qu'il existe à la place d'une création matérielle imparfaite. Autrement dit, il n'y a pas un contexte humain dans laquelle la souffrance est normale, naturelle et inévitable pour chacun de nous. Et puis en plus, il y a l'amour infini. Elle voyait que l'amour est tellement infini qu'il exclut l'existence de quoi que ce soit en plus de cet amour et son expression. Bien sûr, avec point de départ, vraiment l'infinitude de Dieu, pas d'opposé. Il nous faut probablement repenser qui sommes-nous. D'habitude, les gens pensent, eh bien, ils sont essentiellement des êtres physiques en train d'évoluer physiquement dans un univers physique et en train d'évoluer physiquement. Mais la première chose que je peux dire, c'est qu'en réalité, chacun de nous coexiste avec cet amour. Chacun de nous brille éternellement en tant qu'expression de cet amour infini qui n'a pas d'opposé. Et que donc, c'est la nature de l'identité elle-même, de ne pas être sujette à être opprimé, de ne pas être sujette à être agressé ou d'être diminué. L'identité ne peut pas être contaminée. C'est impossible. Parce que l'identité est l'expression pure et sainte, inévitablement sainte, de cet amour qui n'a pas d'opposé. Voici l'identité de chacun de nous. Une analogie. Un édifice avec trois étages. Le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. Le rez-de-chaussée symbolise un sens d'identité qui est exclusivement physique. Donc, la personne est née physiquement, il est formé par les gènes de ses parents, par ses premières expériences, plus tard par ses autres expériences. La personne est composée d'atomes et de chimie. La personne vit un certain nombre d'années, on peut espérer que la personne aime au moins un peu. Et après cela, la personne n'existe plus. Voici un sens d'identité, on pourrait dire le rez-de-chaussée. Un autre sens d'identité, on pourrait dire le premier étage. Oui, la personne est essentiellement physique. Donc la personne est en train de vivre physiquement. Mais aussi, il a un esprit dans le corps. Donc, oui, le corps vit un certain nombre d'années, puis le corps n'est plus, mais l'esprit survit. Et malheureusement, personne ne sait exactement sous quelle forme. Ça, c'est le deuxième concept. Mais un troisième concept, on pourrait dire le deuxième étage, le troisième concept, c'est que chacun de nous est purement spirituel. Et chacun de nous coexiste éternellement avec cet amour infini. Et ce qui nous donne notre identité, notre individualité, ce n'est pas notre âge, ce n'est pas notre taille, ce n'est pas la couleur de notre peau. Mais chacun de nous est une expression totalement unique des qualités de cet amour, qualités telles que la joie, la beauté, la sagesse, la force, l'intelligence. C'est de ce deuxième étage, c'est de ce troisième concept de l'identité qui provient tout ce qu'il y a de bon dans la vie humaine. C'est parce que nous sommes intelligents, nous manifestons l'intelligence divine. Ça, c'est pourquoi on peut manifester cette intelligence. Quand nous faisons d'une manière plus intelligente notre travail, par exemple. C'est parce que nous sommes une expression d'amour et de tendresse et de force. C'est pour cette raison qu'on peut manifester ces qualités en nous servant comme des parents ou comme des grands-parents. C'est puisque le bien-être et la santé font partie de qui nous sommes éternellement en tant qu'expression divine. C'est pourquoi on peut manifester cette santé. Si nous sommes purement spirituels, comment expliquer ces deux autres niveaux? Le rez-de-chaussée et le premier étage? Une question. La première chose qu'on peut dire, c'est que, vu d'un point de vue absolu, ils n'ont pas de réalité. Ce sont des concepts humains. Ce sont des croyances humaines. Mais ces concepts humains ni sont créés par cet amour infini qui remplit tout l'espace, ni sont connus par cet amour. Et en réalité, ces croyances humaines, ces concepts humains n'ont pas de substance. Ceci dit, l'apparence humaine des choses, notre plus haute perception collective de la création de Dieu, ne peut pas manquer de manifester dans une certaine mesure la beauté de la vie spirituelle. Donc, toutes les belles choses de la vie humaine, il y en a tellement J'en ai mentionné seulement quelques-unes au début de la conférence. Toutes les belles choses que Dieu mène, c'est de nous, de les apprécier, de les aimer, de les valoriser. Non parce qu'elles représentent la réalité absolue que Mary Baker Eddy a trouvée dans les Écritures, mais parce que même en tant que perception humaine, elles ont une grande valeur. Et au fur et à mesure que nous croissons spirituellement, toutes les belles choses de la vie humaine deviennent plus belles encore parce qu'on les voit d'une manière plus spirituelle. Pendant que toutes les mauvaises choses de la vie humaine disparaissent parce qu'on voit qu'ils n'ont pas de principe, il n'y a pas de roc pour les appuyer. Ils n'ont pas de soutien dans la réalité. Nous, de l'autre côté, nous sommes ancrés, nous sommes fondés dans le roc de la totalité de cet amour. Et pour cette raison, nous existons en toute sécurité. Pour cette raison, notre perfection est toujours intacte. Pour cette raison, on peut manifester cette perfection en surmontant le péché, par exemple. Et dans la science chrétienne, c'est très important de surmonter le péché. Mais la science chrétienne enseigne qu'il faut surmonter le péché non comme une partie de l'identité, mais comme un mensonge au sujet de l'identité. Pourquoi un mensonge? Parce que l'identité, c'est l'expression parfaite de cet amour qui n'a pas d'opposé. Quand un chien sort d'un lac ou d'une rivière, qu'est-ce qu'il fait, le chien?
Il se secoue.
Et pourquoi fait-il cela?
Pour
rester sec, pour se libérer de l'eau, n'est-ce pas? De la même façon, on peut se secouer du péché. L'eau ne fait aucune partie du chien. De la même façon, le péché ne fait aucune partie de nous. C'est pourquoi on peut s'en libérer de cela. Parce que ça ne fait aucune partie de qui nous sommes. Je voulais vous lire un passage de l'Épître de Paul aux Éphésiens. Ici, il est écrit: en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller au regard de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc, c'est pour chacun de nous à nous réveiller à qui nous sommes éternellement en tant qu'enfants de Dieu. La personne dans toute l'histoire qui a mieux montré cette sainteté que produit la vérité, cette justice, était Jésus. Et Jésus, par sa façon de sentir son unité avec l'amour divin, par sa capacité de reconnaître l'infinitude de cet amour, obéissait toujours Dieu. Et c'était cette obéissance à Dieu qui lui permettait de voir les autres personnes à la lumière de la perfection de Dieu. Pour cette raison, il n'avait pas peur de toucher la personne, l'homme qui était lépreux, et pour apporter la guérison à lui, comme il apportait la guérison à beaucoup, beaucoup de personnes. Et ce n'est pas seulement que Jésus guérissait les gens, il avait formé les personnes aussi, parce qu'il voyait la perfection de l'identité à la lumière de cet amour qui n'est pas d'opposé. Jésus a manifesté parfaitement bien le Christ. Le Christ, c'est la véritable idée de Dieu en tant qu'amour infini sans opposé. Et Jésus a manifesté parfaitement bien le Christ. Et le Christ existait avant Jésus. Jésus a parfaitement manifesté ce Christ. Mais le Christ est ici avec chacun de nous, toujours. C'est le Christ qui console. C'est le Christ qui nous révèle notre véritable état de enfant de Dieu. C'est le Christ qui nous guérit aussi. Ça, c'était l'expérience d'une amie. L'année était 1984 et mon amie était à l'hôpital. Elle venait de subir une opération et les médecins ont trouvé plusieurs tumeurs dans son abdomen. Les médecins ne savaient exactement quoi dire. Ils ne savaient pas quoi recommander en tant que traitement. Ils pensaient peut-être une autre opération et après cela peut-être une chimiothérapie, mais franchement, ils n'avaient pas beaucoup d'espoir que mon ami vit beaucoup plus longtemps. Donc, mon ami était à l'hôpital. Elle ne recevait aucun traitement médical. Mais ce qu'elle faisait, elle était en train de prier. Elle était en train d'étudier la Bible. Elle était en train d'étudier sciences et santé. Aussi, elle recevait de l'aide d'un praticien de sciences chrétiennes. Ensemble, ils s'efforçaient à voir sa perfection, à voir que sa santé est toujours intacte, parce que son identité ne change jamais, puisqu'elle était l'enfant de Dieu. Son mari, qui était tellement gentil, son mari voulait vraiment qu'elle subisse l'opération. Alors, elle a décidé de la faire. Mais cette fois, ils n'ont rien trouvé, ils n'ont trouvé ni une tumeur. Et plus tard, ils ont dit à mon ami, « You're clean as a baby. » Vous êtes aussi propre, aussi sain qu'une bébé. Cette guérison s'est produite en 1984. Mon ami est très active au sein de son église. Elle a une vie très active de famille. Elle a un beau cercle d'amis. Vous pourrez vous imaginer sa gratitude jusqu'à aujourd'hui. Pensez de cette façon que Dieu est parfait, que chaque individu est parfait. Cela exige parfois une certaine discipline intérieure. Je ne vais pas vous dire que ça c'est facile. Peut-être que vous avez un voisin qui se fâche contre vous et vous n'avez aucune idée pourquoi. Cela exige beaucoup de discipline pour ne pas tout simplement réagir, mais pour prier, pour essayer de voir la personne à la lumière de la perfection divine, pour savoir s'il y a un pas que vous, posez, que vous pouvez prendre pour réconcilier avec le voisin. Ou peut-être que vous avez un membre de la famille qui, depuis des décennies, a un comportement qui fait que c'est très difficile pour le reste de la famille. Cela exige peut-être une certaine discipline intérieure pour continuer à appuyer cette personne, pour continuer à appuyer cette personne pour que la personne se réforme et arrête ce comportement qui est tellement problématique. Mais je peux vous dire que vraiment ça vaut la peine d'essayer de penser de cette façon. Parce qu'à maintes reprises, j'ai vu que penser de cette façon apporte la guérison, apporte la réconciliation dans des familles et dans des quartiers aussi. Je crois que cela exige beaucoup de discipline intérieure pour penser de cette façon quand il y a une pandémie. Et on peut même se poser la question si c'est responsable de penser de cette façon. La réponse est oui. C'est que la science chrétienne ne se pratique pas en isolement. La science chrétienne enseigne que nous devons aimer, que nous devons embrasser tout le monde dans nos prières pour élever tout le monde, pour guérir le monde entier. La science chrétienne enseigne une appréciation de tout ce qu'il y a de bon humainement. Cela comprend certainement des infirmières qui passent de longues heures à l'hôpital en train de soigner les autres personnes. Cela inclut certainement une appréciation du politicien qui est capable de communiquer une information nécessaire à la population d'une manière qui encourage tout le monde. Cela inclut certainement une appréciation des citoyens qui respectent les consignes des autorités publiques, par exemple, pour maintenir une distance entre eux et les autres personnes, par exemple. Comme ma propre expérience, j'ai déjà vu que penser de cette façon peut vraiment vous donner de la protection. Je crois que j'ai voyagé à 33-34 pays dans le monde, souvent à des pays où le niveau de la santé publique n'est pas nécessairement très élevé. J'ai déjà été, par exemple, au Brésil 6 ou 7 fois, où la fièvre de la dengue est presque toujours un problème. Je me rappelle que j'ai été à Beira, au Mozambique, il y a quelques années, quand la malaria était vraiment un problème à cette ville. Mais quand je fais ces voyages, ce n'est pas quand les yeux fermés, c'est quand les yeux ouverts, ouverts à cette réalité de cet amour, et la protection que cet amour donne à moi, la protection que cet amour donne à toutes et à toute personne, Je voyage à ces pays avec le cœur ouvert, plein d'amour, et ce que j'ai déjà vécu au moins un peu, c'est que quand votre conscience est pleine de l'amour, il n'y a pas d'espace pour la crainte, il n'y a pas d'espace pour la maladie. Et comme ça, vous vous gouvernez vous-même et vous vous protégez vous-même contre la maladie parce que la maladie ne peut même pas entrer dans votre pensée, dans un sens, dans votre expérience, dans un sens. Je me rappelle plus tôt cette année, j'étais en train de faire une tournée en Afrique, de 3 pays africains. Et j'avais terminé de parler en Nigeria, et la gorge me faisait mal. Alors, j'ai demandé à un ami, qui est scientiste chrétien, qu'il prie pour moi. Ça, c'était un dimanche. Plus tard, très tard, ce soir-là, j'ai reçu un message d'un membre de ma famille. Et le membre de ma famille me disait que le gouvernement canadien voulait que tous les Canadiens reviennent, rentrent tout de suite, pendant qu'il y avait des vols commerciaux disponibles. C'était comme le 15 mars à peu près. Alors j'ai prié ce soir pendant la nuit, et j'ai décidé de faire mon possible de rentrer au Canada. La gorge me faisait toujours mal, alors j'ai demandé à mon ami qu'il continue de prier pour moi. Tant comme pour des millions de personnes dans le monde, à ce moment même, ce moment était un moment de circonstances matérielles très incertaines pour moi. Je ne savais pas si j'allais pouvoir trouver les voies entre Nigeria et Ottawa au Canada. Je ne savais pas si ma santé allait être assez bonne pour que je puisse voyager. Et ou est-ce que le cas serait que je serais obligé de rester dans un hôtel pendant des semaines, pendant des mois, très loin de chez moi. Je voulais voyager. Je voulais avoir une santé parfaite. Mais même plus important pour moi était de respecter et de pratiquer la règle d'or. La règle d'or de Jésus, c'est de faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est l'éthique pratique du christianisme. Ça, c'est extrêmement important dans la science chrétienne. Si c'est nécessaire de communiquer que vous avez une maladie contagieuse, si c'est nécessaire pour protéger les autres, si c'est nécessaire de communiquer cela, oui, ça, c'est la bonne chose à faire. Donc, si c'était nécessaire, je ferais cela avec plaisir. J'ai prié, et j'ai prié principalement avec deux idées. D'abord, tout ce que je reçois directement et exclusivement de Dieu. Comme les rayons du soleil, n'est-ce pas? Les rayons du soleil reçoivent non des autres rayons, mais du soleil, tout ce qu'ils ont. Hein? Chaque rayon reçoit du soleil. Et ce que Dieu me donne, ce sont seulement de bonnes choses, n'est-ce pas? Ce que Dieu donne à tout le monde est seulement de bonnes choses. J'ai prié avec cette idée. L'autre idée, c'est que j'étais déjà chez moi. Chez moi n'était pas un endroit géographique. Chez moi était la conscience de l'amour divin. Et que j'avais certainement cette conscience. J'ai commencé à faire des appels. C'était presque impossible de parler avec les compagnies aériennes. Je regardais sur l'internet, après beaucoup de travail, beaucoup de prières, j'ai trouvé un itinéraire. Et selon cet itinéraire, je passerai par 5 villes, par 4 pays. Je voyagerai pendant 2 jours consécutifs, mais ça me semblait réaliste. J'ai acheté le billet. Et selon cet itinéraire, je j'irai 2 jours suivants. J'ai acheté le billet, c'était lundi, et j'ai passé le reste de cette journée en train de prier pour moi-même, en train de prier pour le monde entier. Mardi, quand je me suis réveillé, je me sentais totalement bien. J'ai remercié mon ami. J'ai quitté l'hôtel vers 9h le matin, mais méticuleusement, j'ai oublié toutes les exigences de tous les avions, donc tous les aéroports, la lettre et l'esprit, c'était très important. Et je suis rentré au Canada très tard, mercredi soir. Et, bien sûr, j'ai resté en isolement pendant 2 semaines, comme le gouvernement canadien pouvait. Je voulais vous raconter cette expérience pour que vous ayez beaucoup de confiance que peu importe où cette pandémie vous trouve, vous pouvez maintenir la perfection de Dieu. Vous pouvez maintenir votre propre perfection et que cela va vous guider, exprimer de l'amour, exprimer du respect envers les autres personnes. Cela va vous apporter la guérison. Cela va apporter la guérison à votre famille aussi, si c'est ce qui est nécessaire. Parfois, penser de cette façon, Dieu parfait, chacun de nous parfait, peut changer pratiquement le caractère de la personne. C'était l'expérience d'une amie. Mon ami était adolescent quand il a pris de la science chrétienne. Et il venait d'une famille du Bar Avenue. Et il ne connaissait pratiquement pas son père. Son père n'était pas vraiment présent dans cette vie. Et une de ses activités préférées était sortir pour voir avec ses copains. Mais il avait un voisin qui était un membre de l'église, la science chrétienne. Ce monsieur était remarquable. C'était un homme d'intégrité. Il était très tranquille. Il avait certainement beaucoup de confiance en Dieu. Mon ami aimait ce monsieur. Et puis ce monsieur l'a invité à l'accompagner à son église. Et puisque dans les églises à séance chrétienne, il y a l'école dimanche pour des jeunes jusqu'à l'âge de 20 ans, en effet, c'était une invitation à l'école de dimanche. Et à l'école de dimanche, mon ami, il a accepté l'invitation. Et à l'école de dimanche, mon ami a entendu quelque chose qui a eu un grand impact sur lui. Il a entendu pour la première fois dans sa vie qu'il a un seul Père-Mère Dieu parfait. Un seul Père-Mère Dieu parfait. Et que lui, il était le fils parfait de ce seul Père-Mère Dieu. mon ami aimait cette idée tellement, tellement qu'il a commencé à fréquenter cette école de dimanche. Et par rapport à son caractère, sa façon de penser a changé. Il y avait beaucoup de changements. Par exemple, il aimait vraiment ses copains, mais il a décidé qu'il ne fallait pas boire. Il ne voulait pas boire. Donc, il a arrêté de faire cela. Et puis, un chemin s'est ouvert pour lui, pour qu'il puisse aller à l'université. Ça, c'était surprenant, parce que sa famille n'avait pas beaucoup de sous. En plus, c'était aux États-Unis, où l'université coûte très cher. Mon ami a été accepté, et à l'université, il a travaillé très fort sur ses études. Mais je crois qu'il a travaillé dans un sens même plus fort sur lui-même. Il voulait exprimer tellement d'amour. Il voulait exprimer tellement d'amour envers les autres étudiants, envers les profs, envers tout le monde. Maintenant, peut-être 10 ans plus tard, mon ami s'est diplômé. Il a un emploi qu'il adore. Il est très actif dans sa communauté. Les derniers, ils ont un petit garçon maintenant. Ce qui m'impressionne dans son cas, ce n'est pas oui, il est allé à l'université, il s'est diplômé, non. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que ce concept de Dieu, comme Père, Mère, Dieu, amour infini, a changé sa vie radicalement et a enrichi sa vie énormément. Et maintenant, lui, pour sa façon de vivre, est en train d'enrichir la vie de beaucoup d'autres personnes. C'est que maintenant, sa vie a une orientation spirituelle et morale qu'elle n'avait jamais avant. C'est difficile pour moi de penser à mon ami sans penser aux 10 commandements. Les 10 commandements, probablement nous les connaissons tous, ils se trouvent dans le livre, quel livre de la Bible?
Matthieu
5. Exode, exactement. Et les 10 commandements ont été très importants pour Jésus. Jésus parle beaucoup des 10 commandements. Et en plus, les 10 commandements ont été très importants dans l'évolution de l'humanité. Le tout premier commandement, c'est quoi? Y a-t-il quelqu'un qui sait? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et pour moi, cela veut dire de reconnaître la finitude, l'omniprésence de cet amour, et de vivre en conformité avec cet amour. Le deuxième, tu ne te feras point d'image taillée. D'habitude, on pense que c'est une statue que les gens vont adorer, mais parfois, les images taillées sont des images dans nos têtes aussi. Hein. Ça peut être, c'est tellement exigeant maintenant, avec la pandémie, avec la technologie, moi je n'ai pas de capacité à l'effet. Si on pense de cette façon, ça c'est une image taillée. Hein. Il ne faut pas penser comme ça. C'est contre les 10 commandements. Celui-ci, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu en vain. Cela veut dire certainement de parler d'une manière polie toujours. Mais j'aime penser que cela veut dire de ne pas prendre la nature de Dieu en vain, mais de reconnaître la nature de Dieu en tant qu'amour infini. Le prochain, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Moi, j'aime beaucoup fréquenter l'école, j'aime beaucoup enseigner l'école le dimanche. Mais j'aime aussi penser que je suis saint tous les jours de la semaine, que tout le monde autour de moi est saint tous les jours de la semaine. Le prochain, honore ton père et ta mère. Et pour moi, c'est logique d'honorer tout ce qu'il y a de bon dans nos parents, de la même façon que nous honorons tout ce qu'il y a de bon dans tous ceux qui nous entourent. Le prochain, tu ne tueras point. Évidemment, ça c'est important littéralement. Mais parfois, nous tuons la joie de l'autre personne, en entretenant une idée très limitée de la personne, par exemple. Le prochain, tu ne commettras point d'adultère. Pour moi, cela veut dire certainement d'être fidèle, dans ton mariage, d'avoir toujours les pensées pures, les pensées propres, mais cela veut dire aussi pour moi d'être une personne fiable. Si je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Le prochain, tu ne dérogeras point. Et au fur et à mesure que nous reconnaissons que nous avons tout le bien dans cet amour infini, il n'y a pas besoin de déroger quoi que ce soit. Le prochain, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Cela veut dire toujours qu'on va dire la vérité. Dans la science chrétienne, la vérité est un synonyme de Dieu. Donc c'est toujours, c'est très très important d'être une personne d'intégrité, de toujours être honnête. Ça c'est très important dans la science chrétienne. Et le prochain, tu ne convoiteras point. Cela veut dire de ne pas vouloir ce qui ne vous ne appartient pas, ce qui ne vous appartient pas. Et pour moi encore, au fur et à mesure que nous reconnaissons que nous avons tout le bien de Dieu, comme chaque rayon du soleil reçoit directement tout ce dont il a besoin, directement du soleil, n'est-ce pas? Il n'y a pas besoin de convoiter. Je disais que les 10 commandements ont été très importants dans la vie de Jésus, dans l'évolution de l'humanité. Et je crois que la raison pour laquelle les 10 commandements ont été tellement importants pour l'humanité, c'est que, dans ce sens, les 10 commandements définissent l'identité de chacun de nous. Comment ça? C'est que la fille de Dieu n'a pas une idée de dignité bornée de ses propres capacités. La fille de Dieu sait qu'elle peut tout faire pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? L'enfant de Dieu, le fils de Dieu, ne veut pas voler, ne peut pas dérober quoi que ce soit parce qu'il reconnaît qu'il a tout le bien de Dieu. Le petit garçon de 7 ans, je suis persuadé, veut dire la vérité parce que c'est sa nature. Donc, les 10 commandements ne nous jugent jamais. Les 10 commandements ne nous condamnent jamais. Les 10 commandements toujours nous appuient dans la démonstration de notre véritable identité en tant qu'expression divine. Donc, les 10 commandements sont nos meilleurs amis, il n'y a pas de doute. Je disais que chacun de nous a tout ce dont il a besoin de Dieu. Voici l'expérience d'une amie. Et mon amie a déménagé avec sa famille pour qu'il puisse travailler. Mais 2-3 années plus tard, il a perdu son emploi à cause des changements au sein de l'institution. Non, il n'avait pas d'emploi. Ce qu'il avait était une hypothèque, une épouse, 2 petits-enfants. Sa situation était peut-être un petit peu comme la situation pour des millions, sinon des milliards de personnes dans le monde actuellement. Il ne savait pas exactement comment les choses allaient se passer sur le plan financier pour eux. Mon ami a commencé à prier. Mais il n'a pas commencé avec un problème. En science chrétienne, on ne commence pas nos prières avec un problème. On commence avec ce que nous comprenons. Il comprenait que Dieu est amour infini. Et il pensait à combien Dieu l'aimait. Et sa pensée était, il était émerveillé comme il pensait à combien Dieu l'aimait. Et puis il pensait à combien Dieu aimait son épouse, ses deux enfants. Et puis, il a eu une idée. Et ça serait impossible que Dieu ne réponde pas à leur besoin. Et ça serait impossible, parce que l'amour de Dieu pourrait être tellement grand. Donc, il avait une sérénité absolue. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il avait beaucoup de confiance. Ce n'était pas beaucoup plus tard qu'il a reçu une offre. Cet emploi allait exiger beaucoup de lui. Et il priait et il décidait d'accepter l'emploi. Maintenant, peut-être 5 ou 6 ans plus tard, il a fait très bien avec son emploi. L'organisation a été bénie. Sa famille a été grandement bénie. Et pour lui, toute l'expérience confirmait que l'amour de Dieu est ici, non seulement pour lui et sa famille, mais l'amour de Dieu est ici pour chacun de nous, pour répondre à nos besoins. Et Dieu va répondre à nos besoins. Il n'y a pas de doute. Est-ce que la science chrétienne guérit toujours? Ça, c'est une bonne question. La science chrétienne a été découverte par Mary Baker Eddy en 1866. Depuis alors, ceux qui pratiquent cette science ont dû faire face à pratiquement les mêmes problèmes que le reste de l'humanité, y compris les mêmes problèmes de santé. Parfois, ils ont été guéris immédiatement, parfois non. Mais en général, le bilan de la guérison par la démonstration est très, très fort. Mary Baker Eddy a fondé une église qui maintenant a des filiales dans beaucoup, beaucoup de pays au monde. Elle a servi comme le pasteur de l'église, la pasteur émérite. Aussi, elle a fondé plusieurs revues. Elle a fondé le héros de la science chrétienne qui est publié tous les mois. Le Christian Science Journal, également publié tous les mois. Le Christian Science Sentinel qui est publié dans toutes les semaines. Dans chaque numéro de ces revues, depuis bien plus d'un siècle, sont toujours publiés des témoignages de guérison vérifiés. Jusqu'à maintenant, quelques 65 000 guérisons. Des guérisons les plus variées. De la cécité, du sida, des cancers, des guérisons d'Alzheimer, de problèmes d'alimentation, toxicomanie, même la fracturation des os. Quand vous lisez ces guérisons, c'est un petit peu comme lire les évangiles dans la Bible, qui sont pleins à craquer avec les guérisons effectuées par Jésus et par ses disciples. Aussi, dans toutes les églises à la science chrétienne, il y a des réunions du mercredi. Et pendant ces réunions, les gens disent comment ils ont pu appliquer la science chrétienne pour être guéris, pour aider d'autres personnes à être guéris aussi. Souvent, la pensée humaine est au niveau du rez-de-chaussée et le premier étage. Mais nous éprouvons toujours la guérison au fur et à mesure que nous nous rendons compte de notre véritable identité en tant qu'enfant spirituel, purement spirituel de Dieu. Et bien sûr, apprendre que nous sommes spirituels et démontrer que nous sommes spirituels, voici le privilège. Voici le plaisir de suivre l'exemple parfait du Maître Jésus. Jusqu'à maintenant, tous les exemples que je vous ai donnés sont des exemples au plan individuel, des individus ou leur famille. Mais je voulais vous donner un exemple pour que vous sachiez comment prier pour la collectivité. Ceci peut être pour votre école, ceci peut être pour votre ville, pour votre quartier, pour votre pays, pour d'autres pays, pour le monde entier. Voici l'expérience d'un ami. Et cet ami vivait dans un pays en développement. Lui, il a accepté l'emploi comme le directeur des finances d'une grande institution gouvernementale. Une institution qui employait plus de 1400 personnes. Après 2-3 mois, il s'est rendu compte que l'institution était totalement corrompue. Le vol était pratiqué par les employés même. Ce vol prenez plusieurs formes. La manipulation du système informatique avec la complicité des caissiers pour voler l'argent. L'émission de faux reçus et tout simplement le vol du matériel. Mon ami voulait que l'institution soit transparente. Il voulait qu'elle soit en conformité, que les livres comptables soient en conformité avec des normes nationales et internationales. Puis, il a commencé à travailler pour réformer cette institution. Il a pris plusieurs pas. Il a modernisé le système de comptabilité. Il a amélioré le système d'inventaire. Il a établi un système de vérification interne. Et aussi, il a commencé à augmenter les salaires. Mais surtout, surtout, il a prié. Il a prié pour que ses yeux soient ouverts à la réalité de chacun de ses employés. Chacun de ses employés parfaits comme enfants de Dieu, expression de cet amour infini qui n'a pas d'opposé, pour que ses yeux soient ouverts à l'intégrité de l'image de Dieu, à l'honnêteté de chaque individu qui est enfant de Dieu. Tous ces efforts pour réformer l'institution ont rencontré une vive résistance. Cette résistance a pris plusieurs formes. D'abord, il y avait un groupe d'employés qui ont rédigé un faux rapport et au sujet de mon ami, ils ont envoyé ce rapport à son supérieur immédiat et au ministre des Finances de son pays. Toutes les allégations ont été recherchées, examinées. Mon ami était totalement innocent. Mon ami a continué de prier. Et puis, plus tard, il avait un collègue qui lui disait qu'il avait entendu une conversation entre deux autres employés. Et ces employés disaient que, vraiment, il y avait une seule façon d'arrêter ces efforts. Ça serait de pratiquer la sorcellerie sur mon ami, de l'éliminer. Maintenant, je peux vous dire que dans plusieurs pays, dans plusieurs cultures, la sorcellerie est une manière d'essayer de contrôler personnellement l'autre personne. Je ne sais pas ici en Suisse, mais je peux vous dire qu'au Canada, nous avons nos propres moyens. Ça peut être des trahisons, ça peut être des campagnes de mensonges, ça peut être la politique du bureau qui peut être brutale parfois. Mais dans cette culture, c'était de la sorcellerie. Mon ami a entendu cela, il a continué de prier. Et un petit peu plus tard, il était seul au bureau, c'était un samedi. Il était en train de travailler. Et tout d'un coup, il sentait une douleur très intense. Et une partie de son corps semblait être paralysée. Il a reconnu immédiatement que c'était de la résistance impersonnelle. Résistance impersonnelle à ces réformes qui allaient bénir tellement de personnes. Spécifiquement, il a prié avec ce passage de Science et Santé. Votre influence pour le bien dépend du poids que vous mettez du bon côté de la balance. Le bien que vous faites et qui s'exprime en vous vous donne le seul pouvoir que l'on puisse obtenir. Il savait qu'il était bien motivé. Il voulait seulement que les employés, que les clients, que les familles des employés soient bénis. C'était sa motivation pure. Il a prié. Cela a pris 2-3 jours, mais finalement, les douleurs ont cessé totalement et il pouvait se bouger normalement. Il continuait de prier. Et maintenant, l'administration lui avait assigné 2 hommes de sécurité qui étaient là pour le protéger parce qu'il avait reçu des menaces. Et mon ami n'avait pas peur. Il savait, Il n'y avait qu'un cœur de l'amour divin et son expression. Et puis, une chose merveilleuse s'est passée. Ses collègues, au même niveau que lui, dans l'organisation, ont finalement, au lieu de tout simplement dire « Oui, très bien, si vous voulez faire cela, allez-y », non, maintenant, ils ont commencé à vraiment appuyer ces réformes. Et un petit peu plus tard, tous les employés ont commencé à appuyer ces réformes. Mon ami savait que c'était le cas. Il pouvait le voir dans les livres comptables. Il pouvait le voir dans les vérifications internes. C'était une grande victoire pour l'institution dans un pays où la corruption est souvent un grand problème. Ils ont surmonté cette corruption. Il y avait des autres dirigeants, des autres institutions gouvernementales qui venaient à mon ami pour lui demander « Comment avez-vous fait cela ?» Voici ce qu'il a dit. J'ai appris que tout est possible à Dieu, l'amour divin. Lorsque l'on travaille de manière désintéressée pour le bien collectif et que l'on est honnête et intègre, notre innocence peut être prouvée et les gens reconnaissent que ce que l'on accomplit est bon. Cette façon de travailler contribue à sortir les pays pauvres de leur pauvreté. Je voulais vous raconter cela pour que vous ayez beaucoup de confiance quand vous priez contre la pandémie, par exemple. Non, vous allez peut-être dire, moi je suis un seul cœur. Mais non, mon ami ne pensait jamais ça comme ça. Il ne pensait pas, oui, mais il y a 1400 autres personnes qui ne pensent pas comme moi. Non, 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 il ne pensait pas comme ça. Il savait que le seul pouvoir, c'est l'amour divin. C'était à lui d'aligner sa pensée avec ce pouvoir pour voir la guérison. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, si nous prions pour cette pandémie, si nous prions pour des changements climatiques, si nous prions pour que les politiciens soient plus intègres dans notre propre pays ou dans les autres pays, on doit avoir beaucoup de confiance. Et bien sûr, quand nous prions, c'est notre façon de vivre qui donne de l'autorité à nos prières. De la même façon, quand nous avons un compte bancaire, c'est de l'argent. C'est des fonds que nous avons dans notre compte qui fait que nos chèques soient acceptés, n'est-ce pas? Parce qu'il y a l'autorité de l'argent dans notre compte. C'est notre façon de vivre l'intégrité. C'est notre façon de vivre l'honnêteté qui fait que nos prières pour l'intégrité, pour les politiciens partout dans le monde, soient efficaces. Je voulais vous lire un dernier passage de ce livre « Science et santé ». C'est un passage sur l'identité qui est très, 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 très fondamental. C'est un passage qui est lu dans les églises, la science chrétienne, on vient à la fin de tous les cultes du dimanche. Et c'est la dernière chose qui est lue pendant toutes les sessions de l'école du dimanche. Et dans ce passage, l'auteur utilise l'expression « l'homme » pour dire l'homme et la femme dans son véritable état comme enfant de Dieu. Voici le passage. Il n'y a ni vie, ni vérité, ni intelligence, ni substance dans la matière. Tout est en ton nom infini et sa manifestation infinie, car Dieu est tout en tout. L'esprit est la vérité immortelle, la matière est remortelle. L'esprit est le réel et l'éternel. La matière est l'irréel et le temporel. L'esprit est Dieu, et l'homme est son image et sa ressemblance. Donc, l'homme n'est pas matériel, il est spirituel. Pour résumer, je vous ai donné un peu d'informations au sujet de la vie de Mary Baker Eddy. comment elle a trouvé dans les Écritures un sens de Dieu en tant qu'amour infini, sans opposé, et qu'elle a trouvé un sens de chacun de nous en tant qu'expression spirituelle de cet amour infini. Que cette réalité de toutes les choses vient à chacun de nous pour nous consoler, pour nous renforcer, pour nous aider, pour nous inspirer, pour nous guérir et pour nous racheter, pour racheter toute l'humanité. Je voulais que vous ayez beaucoup de confiance que vous priez, soit pour votre quartier, soit pour vous-même, soit pour vos familles, pour votre pays, parce que il n'y a rien en plus de cet amour, son expression, et ça c'est la base de nos prières. Et tout le reste n'a pas de pouvoir. Donc je voulais que vraiment vous soyez soulagés, et je voulais vous rendre fort dans votre compréhension et dans votre application de ces vérités. Je voulais remercier l'Église de Genève pour m'avoir invité à donner cette conférence. Aussi, je voulais recommander une étude profonde de la Bible pour mieux comprendre votre nature spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir d'aller au musée de la Réforme ici. C'était tellement touchant comment la Bible a été valorisée ici à Genève et comment cela a inspiré tout le protestantisme. Donc, je recommande une étude profonde de la Bible et je recommande une étude profonde de ce livre Science et Santé avec la clé des Écritures pour mieux comprendre la Bible pour mieux comprendre la Bible dans sa signification spirituelle et pratique. Et la dernière chose que je voulais dire, je voulais remercier à chacun de vous pour votre présence et pour votre gentille attention. Merci.